19h30. Ici à Paris, allez, l'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
C'est un coup de fil qui a été beaucoup commenté en fin de semaine dernière. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, qui a, par téléphone, donc, appelé son homologue russe, Sergueï Shoigu. Les deux hommes ne s'étaient plus parlé depuis 18 mois en raison de l'opposition de la France à la guerre en Ukraine. Oui, mais un événement a relancé le dialogue. L'attentat contre une salle de concert le 22 mars dernier dans la banlieue de Moscou, qui a tué au moins 144 personnes et qui a été revendiqué par le groupe État islamique. À l'issue de son entretien téléphonique, Sébastien Lecornu a, je cite, rappelé la disponibilité de la France à des échanges accrus avec la Russie dans la lutte contre le terrorisme. D'où notre question ce soir, est-ce que cette lutte contre le terrorisme sert les régimes autocratiques? Ici donc la Russie, précédemment peut-être, mes invités me le diront, la Syrie, quand Bachar al-Assad a été maintenu au pouvoir au profit de la lutte contre l'État islamique. Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et mes invités, les voici. Jean-Maurice Ripert, bonsoir.
Bonsoir.
À mes côtés en studio, ambassadeur de France, ancien ambassadeur en Chine et en Russie. Nos deux autres invités sont en ligne avec nous. Bonsoir Cyril Brett.
Bonsoir.
Géopoliticien, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Je vais citer l'un de vos nombreux ouvrages, 10 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme au 21e siècle, sorti cette année aux éditions d'Uno. Notre troisième invité également en ligne. Bonsoir David Gauzère.
Bonsoir.
Chercheur associé au Centre français de recherche sur le renseignement, président du Centre d'observation des sociétés de l'Asie centrale, spécialiste des questions liées à l'islamisme et au terrorisme dans l'espace post-soviétique. Et puis, je vais citer votre ouvrage, Le chaudron vert de l'islam centre asiatique. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, Jean-Maurice Ripert, donc je disais dans votre présentation, vous avez été ambassadeur notamment en Russie. Comment est-ce que vous observez ce contact qui a été renoué entre la France et la Russie au nom de la lutte contre le terrorisme?
Écoutez, au-delà de ce qu'on peut supposer être une tentative pour renouer un dialogue plus large, je ne suis pas choqué qu'en période de reprise du terrorisme, on voit ce qu'il est possible de faire entre pays qui sont à la fois victimes du terrorisme, la Russie et la France, et qui ont des capacités pour lutter contre. Je l'ai vécu quand j'étais ambassadeur dans les années 2015-2016, après les terribles attentats en France. Il ne faut pas oublier que la Russie a été beaucoup frappée par un terrorisme un peu particulier, qui est un mélange de nationalisme, d'indépendantisme et d'islamisme à la sauce caucasienne ou en Asie centrale. Et donc la Russie a un vrai sujet de la lutte contre le terrorisme. Au-delà de cela, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez mentionné la Syrie, on pourrait aussi mentionner le Sahel. Il est quand même tout à fait remarquable que la Russie ne s'est jamais à aucun moment impliquée dans la lutte internationale, par exemple en fournissant des troupes, en aidant le G5 Sahel ou en répondant aux appels des Nations Unies.
Ouais, elle est présente autrement en Afrique.
Elle a notamment financé, armé toute une série de coups d'État militaires au Sahel. Elle se garde bien de remplacer les troupes du G5 Sahel et notamment française, pour lutter contre les islamistes au Sahel. Donc c'est très ambigu la situation russe. Mais en même temps, encore une fois, échanger les renseignements, si c'est faisable. Alors il ne faut pas être naïf. Moi, j'ai assisté à beaucoup de conversations et les Russes ne livrent en général pas grand-chose. Mais enfin, on peut toujours essayer. Il est important, si on veut prévenir des attentats terroristes, de mettre en commun les informations qu'on a sur les mouvements de tel ou tel.
Il y a une possibilité de s'unir, peut-être un peu fort, s'unir, malgré des différends aussi évidents que la guerre en Ukraine entre la France et la Russie.
La lutte contre le terrorisme, par définition, elle vise à éradiquer des agressions contre des civils, contre des femmes, des enfants, des vieillards. Moi, ça ne me choque pas qu'on essaye, quels que soient les différends, de lutter contre le terrorisme. C'est un ennemi commun de toute forme de liberté, de civilisation, d'histoire et de culture. On l'a vu notamment en parlant du terrorisme islamique, bien entendu.
Cyril Brett, géopoliticien, est-ce que vous avez été surpris de ce contact qui est renoué entre la France et la Russie au nom de la lutte contre le terrorisme?
Écoutez, non, dans la mesure où le dialogue est régulier, comme l'a rappelé l'ambassadeur Ripper, entre les différents États victimes du terrorisme. Il faut bien voir que ce qui peut nous surprendre, c'est que des mouvements djihadistes nationaux ou internationaux frappent des régimes qui sont non démocratiques, parce que nous nous étions ancrés dans la croyance un peu rapide que les cibles privilégiées des terroristes étaient nécessairement des sociétés ouvertes, des démocraties, des sociétés libérales. Oui, c'est vrai, mais nous ne devrions pas oublier que les attentats terroristes visent aussi des dictatures, des régimes forts, et que les États d'Afrique, évidemment, ont été particulièrement visés, même quand ils n'avaient pas de régime démocratique. Les États du Moyen-Orient également sont très régulièrement visés, alors que leur coefficient de démocratie est assez bas. Il faut bien voir que le terrorisme est avant tout une tactique inspirée par différentes idéologies. En ce moment, ce qui évidemment est très visible, c'est l'idéologie djihadiste. C'est une tactique pour emporter dans les esprits et dans les médias un combat politique qui n'est remporté ni dans les urnes ni dans les meetings, et un combat militaire qui n'est pas non plus gagné sur le terrain, sur le champ de bataille. Donc c'est une tactique qui frappe indifféremment les régimes, par-delà les profondes différences politiques qui peuvent séparer une démocratie comme la France et un régime fort comme la Russie.
Et s'unir, s'allier, on va dire, contre le terrorisme, est-ce que ça peut, selon vous, reléguer l'action qu'a la Russie en Ukraine ? Est-ce qu'il y a ce danger-là pour la France ?
Je ne pense pas que les positions françaises en particulier, européennes en général, et celles de la Russie puissent être cimentées, converger tout d'un coup malgré l'horreur des attentats. Je pense que la France comme la Russie sont des grands États avec des politiques étrangères, des politiques de sécurité qui ont différentes pistes, différents objectifs, eux aussi complexes, et que des rapprochements très ponctuels encore à démontrer en matière d'échange de renseignements, par exemple, eh bien, peuvent tout à fait s'accommoder d'affrontements ou de tensions extrêmement vives sur d'autres sujets. N'oublions pas, par exemple, que sur la négociation du programme de contrôle et de réduction de l'Iranien concernant l'acquisition de l'arme nucléaire, la France et la Russie, j'allais dire, tiraient dans le même sens, sans du tout partager la même politique dans d'autres zones du Moyen-Orient, notamment en Syrie.
David Gauzère, on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes président du Centre d'observation des sociétés de l'Asie centrale. Vous êtes spécialiste des questions liées à l'islamisme et au terrorisme dans l'espace post-soviétique. Ça nous intéresse. Est-ce que vous pouvez nous en dire déjà un peu plus sur le groupe qui a frappé cette salle de concert dans la banlieue de Moscou le 22 mars dernier ? Je disais plus de 144 morts. C'est une franchise du groupe État islamique. Mais de qui s'agit-il et en quoi est-ce que... Eh bien, on peut penser que c'est utile pour la France de s'entendre avec la Russie pour combattre ce groupe-là.
Oui, alors il s'agit du groupe, plutôt d'une wilaya, c'est-à-dire d'une unité fonctionnelle ou géographique de l'organisation État islamique. Donc là, c'est la branche, c'est la wilaya Organisation État islamique Khorasan, dont l'espace géographique correspond au mythique Khorasan médiéval, c'est-à-dire au sud de l'Asie centrale, au tiers nord de l'Afghanistan et tiers nord-est de l'Iran. Cette wilaya donc est une subdivision géographique du califat mondial que les djihadistes prétendent vouloir mettre en place. Hein, c'est l'objectif messianique. Et effectivement, comme il s'agit d'une wilaya, elle peut viser la mise en place de ce califat de deux manières, soit directement, comme elle a fait à Moscou, comme elle peut le faire dans un pays occidental, c'est-à-dire avec un fort pouvoir de nuisance, mais sans risque de déstabilisation politique possible, ou alors en faisant jouer ses filiales, c'est-à-dire des organisations islamistes autonomes mais franchisés, qui vont agir au niveau national au nom de l'OIK, et en l'occurrence pour le Tadjikistan, Ansarullah. C'est-à-dire que les franchises vont passer par l'échelon national avant de viser plus haut. Alors l'intérêt justement de la France de coopérer avec la Russie sur cette question, c'est de pouvoir bénéficier de l'expertise de chaque pays sur des réseaux de renseignements. On va dire concernant des groupes qui sont mêlés. La France peut apporter l'expertise qu'elle a au Sahel, et puis la Russie, par rapport à une expérience ancienne qu'elle a avec l'Afghanistan, qui aujourd'hui est la terre d'hébergement de l'OIK, peut aussi apporter cette expertise de façon à pouvoir, après, ensuite, en France, nous prémunir d'attentats possibles sur notre sol.
C'est important de dire que ces groupes, ils sont très présents en Russie ou dans les anciens, dans les anciennes nations de l'ex-URSS.
Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a un État qui est quand même très, très mal en point par rapport, en termes de résistance par rapport à ces groupes, c'est le Tadjikistan. Hein. Le Tadjikistan, il est clair que comme il n'a plus d'opposition légale depuis 2015, qu'il y a actuellement des luttes claniques et voire même familiales pour la succession, puisque le président Larmont prévoit de transmettre le pouvoir de manière dynastique à son fils, Roustam. Il est clair que le Tadjikistan est aujourd'hui soutenu à bout de bras par la Russie, et il est clair qu'un affaiblissement de la Russie sur n'importe quel front pourrait entraîner, si les États occidentaux ne prévoient pas la mise en place d'une opposition démocratique crédible pour accompagner ce changement de pouvoir, pourrait entraîner la chute de ce pays dans l'islamisme. Ailleurs, les autres pouvoirs, bon, le Kyrgyzstan est peut-être un peu plus fort, il n'y a pas de risque islamiste du fait d'une tradition musulmane très particulière, teintée de chamanisme, qui est présente chez les Kyrgyzes, mais pourrait connaître quand même un certain chaos par rapport à la faiblesse des rouages étatiques. Par contre, les trois autres États sont détenteurs de la manne gazière et pétrolière, que sont l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Turkménistan, sont suffisamment forts pour y faire face, même si des régions périphériques dans ces États sont quand même infiltrées par ces cellules. Alors ces cellules, ce sont des agents dormants qui soit directement de la vilaya, soit de filiales, et qui attendent des instructions pour passer à l'ordre.
Ouais.
Il faut savoir aussi que l'organisation État islamique Khorasan a une choura, c'est-à-dire une assemblée, qui peut clandestinement se déplacer entre l'Afghanistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Et donc des décisions sont prises donc sur ces territoires-là. Donc ça, c'est un fait aussi qu'il faut prendre en compte, puisque dans l'état d'esprit djihadiste, les frontières nationales sont abstraites.
C'est important de préciser effectivement l'importance de ces groupes et leur présence dans ces régions-là, parce que effectivement, historiquement, on a notamment tendance à penser que, et c'était le cas avec le 11 septembre et puis aussi avec tous les attentats qui ont touché la France, que c'était d'abord les démocraties qui étaient touchées. Comment justement Jean-Maurice Ripert, puisque notre question ce soir c'est est-ce que la lutte contre le terrorisme sert les régimes autocratiques ? On va y venir, mais comment un régime autocratique vit-il ces attaques ? Parce qu'il y a une verticalité qui est différente du pouvoir, il y a un État qui est défié, encore plus fortement défié que lors qu'une démocratie est visée.
Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel.
Ouais.
Le terrorisme, ce sont des actions qui visent des populations civiles en violation de tous les droits humains, du droit international, tout simplement de la bienveillance, de la bonté. Enfin, c'est inimaginable. Bien. Alors, il faut différencier à partir de là un certain nombre de phénomènes. Quand les militaires birmans assassinent des réfugiés Rohingyas, ils prétendent faire face à un groupe terroriste. Quand les Iraniens massacrent tous les opposants, ils prétendent faire face à un groupe terroriste. Donc la difficulté, c'est de ne pas tout mélanger.
Quand Bachar al-Assad massacre son peuple, entre guillemets, il affirme qu'il lutte contre le terrorisme.
Exactement. Okay. Et ce qui est frappant, c'est que dans le cas des régimes autoritaires, en tout cas de ceux qu'on nomme le plus fréquemment, c'est-à-dire la Russie, la Chine ou la Turquie d'Erdogan, sont qualifiés de terroristes les opposants intérieurs. Vous voyez comment Erdogan et les pouvoirs turcs essayent depuis 40 ans d'éradiquer l'indépendance, l'existence même, la culture, la langue du peuple kurde à l'intérieur de la Turquie. Donc il faut dissocier, de mon point de vue, ce qui se passe par rapport aux États autoritaires dans leurs propres frontières, où là, ils sont, souvenez-vous de la fameuse phrase de Vladimir Poutine en 2000, quand il est devenu président, il a dit « je poursuivrai les terroristes jusque dans les chiottes ». C'est-à-dire que c'était vraiment l'idée qu'il fallait massacrer tous ceux qui s'opposaient à la Russie.
Donc il y a un parallèle entre les terroristes qui ont frappé cette salle de concert et entre guillemets, les Ukrainiens pour la Russie ?
Non. Parce qu'ils n'ont pas qualifié les Ukrainiens de terroristes, ils ont qualifié de nazis, ce qui était un peu la même chose. Mais il y a un phénomène difficile dans le terrorisme intérieur, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a des opposants qui sont prêts à recourir à la violence. C'est pour ça que vous n'entendez jamais les Chinois parler de tout ça. Le plus grand silence règne sur ce qui se passe en Chine. Il y a certainement des attentats, on sait qu'il y a des manifestations. Je ne peux pas croire un instant, et on a tous eu des informations à des moments et à d'autres, il y a des mouvements de foule violents au Xinjiang, au Tibet, périodiquement, qui sont qualifiés de terroristes. Mais pour en revenir au terrorisme international, ce qui est très frappant encore une fois, c'est que la Russie ou Erdogan pratique une politique de godille permanente. Moi, j'étais en Russie pendant les attentats de 2015 en France. Souvenez-vous, 11 millions de personnes dans la rue, sauf erreur de... Non, 4 millions de personnes dans la rue le 11 novembre, je crois, ou 11 octobre.
Après le 13 novembre.
Après le 13 novembre. Oui. C'est pas le 11, voilà. 4 millions de personnes dans la rue, 44 chefs d'État et de gouvernement. La Russie était représentée par Sergueï Lavrov.
Donc le ministre des Affaires étrangères.
Parce que c'était un des rares pays qui n'avait pas envoyé. Pourtant, Dieu sait si j'étais intervenu pendant 48 heures pour obtenir au minimum le Premier ministre à défaut de Vladimir Poutine. Et quand je suis rentré, j'ai eu droit à une explication de texte hallucinante de Lavrov, qui a reproché à la France à la fois de martyriser ses populations musulmanes et donc, en sous-entendu, ne vous plaignez pas de ce qui vous arrive, et en même temps de dire tout ça vous arrive parce que vous ne savez pas vous défendre, vous avez renoncé à vos racines chrétiennes. C'était du grand n'importe quoi. Regardez la politique d'Erdogan par rapport au Hamas. Elle est d'ailleurs assez proche de celle de la Russie. Il faut faire semblant de soutenir les populations palestiniennes parce qu'on ne peut pas faire autrement quand on est musulman dans le cas d'Erdogan et qu'on prétend être le nouveau calife. Il faut soutenir les revendications palestiniennes quand on est russe, mais en même temps, il ne faut pas se fâcher avec Benjamin Netanyahou. Donc c'est un exercice de style un peu compliqué. Tout le monde sait que M. Erdogan était un grand ami du leader des frères musulmans, qu'il a accueilli Meshal en Turquie, etc., etc. Donc ce sont des équilibristes. L'essentiel pour eux, c'est de ne pas intervenir. Et quand la Russie est intervenue en Syrie, vous l'avez rappelé, elle n'a absolument pas participé aux frappes contre Daesh. Les avions russes et les pilotes russes, ils bombardaient Alep. Et il faut s'en souvenir. Alors, il faut faire très attention.
Il faut rappeler que la Russie est soutien de la Syrie de Bachar al-Assad.
A soutenu Bachar al-Assad, qui à l'époque...
Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce retour de bâton aujourd'hui, l'attentat qu'il y a eu le 22 mars.
Je ne sais pas. Il faut voir avec les spécialistes. Bien Moi, sûr. Je pense que c'est plutôt lié à l'islamisme radical, caucasien et Asie centrale.
Je voulais savoir... Parce que vous avez cité Benjamin Netanyahou, je voudrais rester avec vous, Jean-Maurice Ripper. Est-ce que Israël instrumentalise la lutte, selon vous, contre le terrorisme, avec la lutte contre le Hamas, pour justifier aujourd'hui la colonisation ? Puisqu'on on pose la question ce soir, est-ce que la lutte contre le terrorisme sert les régimes autocratiques ? À considérer que l'Israël soit un régime autocratique ?
Je pense que Benjamin Netanyahou ne cherche plus à justifier quoi que ce soit. Si ce n'est vis-à-vis de sa propre opinion publique, le fait que la guerre dure. Justifier le grand Israël, certainement. La lutte contre le Hamas lui fournit un prétexte. C'est là la responsabilité très grave du Hamas et de ceux qui l'ont armé. Probablement un peu l'Iran, probablement le Qatar et d'autres. C'est d'avoir fait chuter la perspective de paix des accords d'Abraham, notamment. Donc là, effectivement, dans lesquels Netanyahou rentrait à reculons.
Un verre d'eau pour vous, Jean-Maurice Ripper, l'un de mes trois invités, ambassadeur de France, ancien ambassadeur de France en Chine et en Russie, Cyril Brett, géopoliticien, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, et David Gauzère, chercheur associé au Centre français de recherche sur le renseignement, président du Centre d'observation des sociétés d'Asie centrale, spécialiste des questions liées à l'islamisme et au terrorisme dans l'espace post-soviétique. On tente ce soir de répondre à cette question. Est-ce que la lutte contre le terrorisme sert les régimes autocratiques après la reprise du dialogue entre la France c'est la Russie suite à l'attentat du 22 mars qui a touché une salle de concert près de Moscou. Cyril Brett, je voudrais vous faire réagir à cette chronique qui m'a beaucoup alerté et qui touche au cœur de notre débat ce soir. Dans Le Monde, daté du 27 mars, je cite « Si une coalition contre l'EI devait rassembler ceux qui l'a ciblé, eh bien elle réunirait l'Iran, l'Afghanistan, la Russie et les États-Unis, soit des régimes que tout oppose. Est-ce que vous diriez que la lutte contre le terrorisme peut permettre le rapprochement entre des nations et d'une certaine manière eh bien, l'apaisement entre ces nations ?»
Je crois qu'il faut bien distinguer la communauté de destin des victimes du terrorisme, qui ne sont pas les États, qui ne sont pas les régimes, mais qui sont bien les passants, qui sont bien les parents d'élèves, qui sont les publics d'un concert. Et il faut bien distinguer les lignes de politique étrangère suivies par ces différents régimes qui ont des intérêts, qui ont des objectifs politiques, qui sont bien différents. Protéger les populations, c'est un impératif étatique qui est quasiment indifférent à la nature du régime politique. C'est simplement que, et pour en revenir à la question que vous posez, les réactions et les méthodes de l'antiterrorisme peuvent être assez différentes selon les types d'États. Dans des régimes autoritaires, on le voit en Russie, mais on peut le voir également ailleurs au fil du temps de la trop longue histoire du terrorisme, les attentats ne sont pas d'abord et avant tout perçus comme des atteintes à l'intégrité physique de civils, de passants, mais comme un défi à l'autorité de l'État, puisque tout l'État est construit sur en Russie, on pourra dire la verticale du pouvoir, et dans les régimes autoritaires plus largement, sur la force de l'État. Ouais. La lutte contre le terrorisme dans les démocraties libérales, elle est d'abord et avant tout menée pour la protection de la liberté, de l'intégrité physique des personnes, des individus, ouais, des citoyens. Et c'est ce qui fait qu'en fait, l'antiterrorisme russe, par exemple, à l'intérieur, on pense à Beslan, on pense également au théâtre de la Dubrovka, l'antiterrorisme fait bon marché de la vie des civils. Et c'est bien documenté maintenant, les opérations antiterroristes des années 2000 en Russie, ont directement fait des victimes parmi les otages qui avaient été pris lors de ces prises d'otages massives. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a une communauté de destin des victimes du terrorisme. Elles n'ont rien demandé, elles ne sont pas en armes, pas les moyens de se défendre, mais les réactions des régimes politiques sont très différentes selon qu'ils sont plus ou moins soucieux, voire dans certains cas pas du tout, de l'intégrité physique et des libertés des individus.
Est-ce qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, et donc jusqu'où peut aller cette lutte contre le terrorisme, est-ce qu'on peut voir, par exemple, l'Iran s'allier avec les États-Unis un jour au nom de la lutte contre le terrorisme ?
Alors, je pense que dans la lutte contre le terrorisme, oui, évidemment, je pense que en posant la question, on a déjà la réponse. Il faut bien voir que la lutte contre le terrorisme, c'est un ensemble extrêmement vaste de méthodes qui va de la collecte du renseignement jusqu'à des procédures judiciaires, qui va de la réorganisation des services de police jusqu'à la prévention, par exemple, dans les prisons, par exemple, dans les mosquées ou dans les écoles. Et donc, on voit bien que si sur certains dossiers particuliers nominatifs d'individus ou d'organisations dangereuses, certains échanges de renseignements très partiels, parfois sujets à caution, peuvent être réalisés, évidemment, il va de soi qu'une coalition anti-terroriste ne pourra jamais présenter un front intégré qui... encore moins possible, ferait fi des différences politiques et des différences de politique étrangère, par exemple, entre l'Iran et les États-Unis. Ouais,
donc pas de coalition internationale contre le terrorisme, en tout cas qui réunirait tous les pays, ça c'est sûr. Cependant, Jean-Maurice Ripert le disait, au nom de la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas s'étonner que la France et la Russie reprennent le dialogue, malgré l'opposition de la France en Ukraine. David Gauzer, spécialiste des questions liées à l'islamisme dans l'espace post-soviétique, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le président russe essaye de tirer profit de cette attaque terroriste qui a pu avoir lieu à la fin du mois de mars près de Moscou.
Oui, tout à fait. Il essaie d'en tirer profit, surtout en essayant de culpabiliser, se faisant par de fausses preuves. Hein. En essayant de culpabiliser l'Ukraine pour la faire entrer, pour la relier à ce conflit, pour la relier au terrorisme international, alors que nullement l'Ukraine n'est responsable de l'attentat de Moscou. Alors, c'est sûr que les quatre terroristes interpellés, les premiers, s'enfuyaient vers l'Ukraine. D'abord, ils ont essayé d'aller vers la Biélorussie. Mais, et puis, ils étaient au niveau des trois frontières. Et puis, comme ils ont vu que la route était fermée vers la Biélorussie, ils ont bifurqué et sont tentés d'aller vers l'Ukraine. Mais ils ont été arrêtés avant. En tout cas, s'ils ont fait cela, c'est parce que, bien évidemment, la frontière était la plus proche. Mais c'est une initiative privée. Et l'Ukraine n'est pas du tout responsable de ce conflit-là. Alors, pour Vladimir Poutine, c'est une sorte d'exutoire, notamment par rapport à sa population aussi. C'est pour trouver un bouc émissaire, pour montrer qu'il est toujours là comme l'homme de force, l'homme de protection, qui protège. Et quand il n'y a pas d'explication, quand il y a un problème, ben c'est de bonne guerre, on culpabilise l'ennemi.
Mais est-ce que, Jean-Maurice Ripert, est-ce que ça peut détourner l'opinion, la communauté internationale de la guerre en Ukraine, comme peut-être, vous allez me répondre, ça a pu détourner la communauté internationale ce qui se passait en Syrie, pour faire le parallèle avec Bachar al-Assad, le président qui a été maintenu au pouvoir au nom de la lutte contre le terrorisme, parce qu'il s'agissait d'abord de combattre Daesh.
Il n'a pas été maintenu au pouvoir pour ça. Il se trouve que le soutien qui a été apporté aux opposants à Bachar el-Assad n'a pas permis de le faire tomber grâce à l'intervention des Russes, qui l'ont protégé et qui ont retourné la situation militaire sans, encore une fois, s'en prendre à Daesh. Donc,
en tout cas, c'était pas une priorité pour la communauté internationale.
Non, mais je crois pas que la communauté...
La chute du président syrien.
Non, je crois pas sur l'Ukraine. Non, je crois pas. Je crois que c'est un traumatisme beaucoup trop fort, en tout cas, sur le continent et dans toutes les démocraties du monde pour que quiconque détourne le regard. Le problème de jusqu'où ira le soutien, c'est une chose.
Ouais.
Mais je ne crois pas que le fait qu'il y ait un attentat terroriste à Moscou va dissuader quiconque de soutenir l'Ukraine. Enfin, je ne crois pas.
Mais Vladimir Poutine ne peut pas instrumentaliser ce fait pour...
Vis-à-vis de qui ? Sa propre population.
Non, vis-à-vis de la communauté internationale, en tout cas de ceux qui s'opposent à la guerre en Ukraine.
Mais c'est l'immense majorité des pays du monde.
Oui.
Je ne crois pas une seconde que dans beaucoup de pays du monde, on s'intéresse au sort, malheureusement, d'ailleurs, parce que c'est un drame humain, comme l'a rappelé un de vos interlocuteurs. Non, je ne crois pas. Non.
Ouais.
Non, non.
Parce qu'on peut imaginer qu'il y a cette convergence entre une guerre qui dure, un soutien qui s'effrite... cette menace terroriste...
Peut-être l'espère-t-il, pour répondre à votre question, ouais. Vladimir Poutine. Moi, je n'y crois pas une seconde.
Ouais.
Je ne crois pas une seconde.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, est-ce que la lutte contre le terrorisme sert les régimes autocratiques ? On va dire pas vraiment, si on doit répondre à cette question, au vu de vos réponses, Jean-Maurice
Non,
Ripert.
Pas vraiment, mais qu'ils utilisent un certain nombre d'actes terroristes, qui tentent de les utiliser, bien sûr.
Eh bien, merci beaucoup, ambassadeur de France, ancien ambassadeur en Chine et en Russie. Merci beaucoup à nos deux autres invités, Cyril Brett, géopoliticien, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, auteur du livre « 10 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme au 21 siècle, édition d'UNO en 2024, c'est sorti cette année. David Gauzère, merci beaucoup, chercheur associé au Centre français de recherche sur l'enseignement, président du Centre d'observation des sociétés d'Asie centrale, spécialiste des questions liées à l'islamisme et au terrorisme dans l'espace post-soviétique. Merci beaucoup à vous trois. Et merci à Hélène Avril qui était à la réalisation, Arnold Assawa et Florence Ponce à la préparation. Dans 1 minute 30, ce sera notre invité exceptionnel ce soir en lieu et place de votre décryptage. Stéphane Séjourné répondra depuis Abidjan aux questions de Marie Normand de RFI et Stéphane Ballon de France 24. Juste après, ce sera l'heure de la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et quel est le programme ce soir ?
Alors le Sénégal, avec cette image qui était encore impensable il y a quelques semaines, la passation de pouvoir entre l'ex-bête noire du régime, Ousmane Sonko, le Premier ministre, avec son prédécesseur. On parlera également de cette incursion de l'armée malienne et de Wagner hier dans le sud-est de la Mauritanie. Incursion au cours de laquelle 3 civils ont été blessés. Il s'agissait de pourchasser les djihadistes. Et puis enfin, le Gabon, 7 mois après le coup d'État qui a renversé Ali Bongo. C'est le début du dialogue national. Une concertation qui doit aboutir à des grandes réformes. Jusqu'au 8 avril, plus de 600 participants sont attendus.
Et bien merci beaucoup Sylvie Burré. On vous retrouve dans 30 minutes. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale, évidemment.